Donc je vais présenter les éléments d'une enquête que j'ai menée en deux temps, en 2005-2007 et en 2013-2015, auprès des membres d'un syndicat d'ouvrières de blanchisserie hospitalière en région parisienne. Donc c'est une enquête qui ne porte pas de manière centrale sur le travail, mais qui porte plus sur le rapport de ces ouvrières à leurs conditions et sur leur engagement syndical. Et ça s'inscrit plus largement dans une réflexion sur la politisation des classes populaires, une réflexion qui tient pour partie son origine dans une insatisfaction à la lecture de plusieurs travaux sur ces questions de politisation en milieu populaire. Donc beaucoup de travaux ont mis à très très juste titre, hein, bien sûr, l'accent sur le déclin du militantisme et sur les formes de démobilisation politique en milieu populaire. Le recul des formes de sociabilité et de socialisation locale et professionnelle qui étaient au fondement de la politisation des mondes ouvriers et populaires. Et d'autre part, d'autres travaux qui, quand ils portent sur le militantisme, montrer que ce déclin n'est pas total, mais se centrer sur les formes en général les plus intenses et les plus légitimes de militantisme et d'engagement politique. Donc, ces recherches, les unes comme les autres, sont souvent très riches, mais il me semble qu'elles permettent mal de saisir des situations intermédiaires, situations que j'ai pour ma part rencontrées dans plusieurs enquêtes, mais que je pense tout le monde rencontre sur différents terrains. Donc, pour ma part, j'ai rencontré ces situations intermédiaires dans une enquête sur les rapports aux institutions dans un quartier populaire, ou encore dans la recherche collective que j'ai menée avec Marie Cartier, Isabelle Coutan, Olivier Masclé, à laquelle Fabien avait d'ailleurs participé, dans un quartier pavillonnaire. Lors de ces enquêtes, j'ai rencontré des membres des classes populaires qui, individuellement ou au sein d'un groupe, s'attachaient à défendre leur situation matérielle, à valoriser leur statut social, à lutter contre divers processus de disqualification, sans pour autant disposer de ressources militantes. Ces dispositions et pratiques me semblent centrales pour analyser la politisation en milieu populaire aujourd'hui, et je propose de les définir comme constituant un rapport mobilisé à sa condition sociale. Donc, conditions sociales étant entendues ici à la fois dans des dimensions objectives et subjectives et comme renvoyant simultanément à des rapports sociaux de classe, de sexe et de race. Donc, il me semble que c'est particulièrement important d'explorer ce type de rapport mobilisé à sa condition sociale en ce qui concerne l'engagement au travail, qu'il a aussi souvent étudié à travers les périodes de forts conflits ou à travers des profils de syndicalistes dotés d'un fort capital militant, et les autres types de mobilisation sont généralement jugés improbables ou exceptionnels. Il me semble qu'on voit peu dans les enquêtes les formes plus routinières de participation à l'activité syndicale des ouvriers et des employés. Donc c'est cette réflexion qui m'a donné l'idée de revenir sur un terrain que j'avais commencé à explorer entre 2005 et 2007-2008 dans un syndicat de la CGT d'ouvrières d'une blanchisserie de la PHP. Et j'ai souhaité prendre pour objet des pratiques syndicales ordinaires pour m'intéresser pas tellement sur les conditions de l'engagement que sur les conditions du maintien dans la durée de l'engagement d'ouvrières, en les replaçant en perspective avec tout un ensemble d'autres pratiques, représentations et valeurs qui ne relèvent pas que de l'univers du travail et de l'univers militant, mais aussi d'autres univers domestiques et résidentiels notamment. Donc, ce qui m'est apparu, c'est que cette notion de rapport à sa condition sociale et ses formes d'engagement syndical doivent être entendu comme renvoyant à la valorisation d'une appartenance de classe, mais aussi très fortement, dans le cas que je vais souligner, de genre. Donc je vais parler très rapidement du terrain et de l'enquête, puis souligner quelques résultats de ce qui m'est apparu dans ce syndicat. Donc c'est une enquête qui a commencé en 2005 dans le cadre d'une enquête collective sur la syndicalisation. J'ai observé des formations syndicales et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré des ouvrières d'une blanchisserie de la PHP qui m'ont invité à venir découvrir leur blanchisserie, donc qui se définit comme une blanchisserie industrielle. Et donc j'ai pu découvrir cet établissement et leur syndicat. Donc je vous dis quelques mots de leur travail et de cet établissement. Après, je parlerai très peu du contenu de leur travail. Donc c'est une blanchisserie industrielle qui emploie 120 personnes, très très majoritairement des femmes, majoritairement peu qualifiées, et qui travaillent le long d'une chaîne pour la plupart d'entre elles. C'est un travail qui est assez difficile physiquement, donc je vais juste projeter quelques photos pour évoquer la nature de ce travail. Alors, c'est des photos que j'ai prises sur des sites institutionnels, donc tout est bien rangé, on voit jamais le linge sale, mais c'est très souvent comme ça sur ces types de représentations. Donc, c'est très, très rapide et je ne vais pas tellement entrer dans l'analyse du travail. Donc, cette blanchisserie, elle n'est pas reliée à un hôpital, hein, elle est située en dehors d'un hôpital. Donc, dans ce cas, elle est publique, mais dans d'autres hôpitaux, elle pourrait être privée. Donc, le linge sale arrive sous cette forme, dans des sacs sur des rolls. Ensuite, il est trié. Donc, je n'ai pas trouvé de photos des ateliers de tri où le linge est sale. Donc, ensuite, il est lavé par des énormes machines à laver qu'on appelle des tunnels. Et ensuite, il est déversé souvent un étage en dessous dans des grands bacs où il arrive mouillé. Et puis, il faut le faire passer dans différentes machines comme celle-là pour les draps et comme celle-là pour les vêtements. Donc, c'est un travail qui suppose le port de charges assez lourdes, notamment le linge mouillé, des gestes très répétitifs. Dans cette blanchisserie, ce sont des postes au compteur, donc c'est un travail avec une cadence imposée. On travaille debout, il y a beaucoup de poussière, il y a des vapeurs, il y a de l'humidité, de la chaleur, du bruit, et aussi pour le linge sale, des risques de contamination. Donc c'est un travail assez difficile. Donc l'enquête a été menée en deux temps. Entre 2005 et 2007, j'ai mené des entretiens avec les syndicalistes que j'avais rencontrés en formation et d'autres syndicalistes du syndicat. J'ai observé des réunions et j'ai fait une petite monographie sur ce syndicat dans le cadre de l'enquête collective à laquelle je participais. J'ai ensuite gardé le contact notamment avec une de ces syndicalistes jusque vers 2009. Et en 2013, j'ai repris contact avec elles en leur expliquant que je souhaitais mieux connaître leurs conditions de vie. Après réflexion et discussion, les syndicalistes ont accepté ma présence et je me suis rendue à l'occasion d'une quinzaine de journées ou parfois de demi-journées sur une période un peu plus d'un an dans le local syndical. Donc c'est un local qui est situé vraiment dans les ateliers, il donne directement sur les ateliers, mais pour l'essentiel du temps, moi j'étais dans le local syndical et peu dans les ateliers. Donc c'est une enquête de type ethnographique au sens où je me suis centrée sur un petit groupe de militantes, celles qui sont les plus investies et qui sont le plus souvent dans ce local syndical, donc à savoir 6 personnes. Plus précisément, il s'agit de 5 femmes et un homme, mais cet homme est plus en retrait, donc j'utiliserai le féminin pour parler de ce petit groupe. Donc j'ai surtout réalisé des observations, des discussions informelles, des entretiens, puis un travail sur documents que j'évoquerai pas ici. Donc ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre le maintien dans la durée de l'engagement de ces femmes dans un établissement où l'engagement syndical ne va pas de soi. Donc c'est un établissement où le personnel est peu qualifié, très féminisé, majoritairement composé de migrantes ou de filles d'immigrés, donc originaires des DOM-TOM, mais aussi du Maghreb, d'autres pays d'Afrique et d'Asie, et où donc cet engagement sur le long terme n'est pas évident. Par ailleurs, elles habitent toutes à distance de leur lieu de travail, donc il n'y a pas non plus de sociabilité préalable à cet engagement. Avant d'en venir au contenu de l'analyse, je voudrais aussi souligner que revenir sur ce terrain à peu près 8 années d'intervalle a été une ressource extrêmement importante pour moi dans l'interprétation des matériaux, dans la mesure où mon regard sur leur engagement a réellement changé entre ces deux phases. Pendant la première phase de l'enquête, donc qui était un peu moins ancrée dans la durée, mais un petit peu plus intensive, où j'ai rencontré différentes personnes, observé des réunions, lu tout un ensemble de documents, j'ai eu l'impression qu'on pouvait vraiment comprendre l'investissement syndical de ces ouvrières comme découlant d'une part d'un héritage militant pour certaines qui avaient des pères syndiqués ou syndicalistes, et pour d'autres d'aspiration culturelle ou d'une petite forme de déclassement scolaire, même si elles n'ont pas fait d'études très longues, je vais y revenir. Et lors de mon retour sur le terrain, je les avais aussi situés assez haut dans l'espace social des classes populaires, hein, je les mettais vraiment au sein des fractions les plus hautes. Or, ce que je vais expliquer là, c'est que le retour sur le terrain m'a fait prendre conscience d'une part que leurs positions étaient moins élevées que ce que j'avais perçu la première fois ou qu'elles avaient donné à voir la première fois, et que j'avais aussi surestimé à la fois l'intensité de leur engagement, enfin les modalités de leur engagement, et aussi l'existence de ressources militantes héritées de leur famille. Donc j'ai cherché dans d'autres éléments des clés de compréhension de cet engagement pérenne, en voyant qu'il était à la fois limité et pérenne et très important pour elle. Donc je vais présenter ces analyses en trois points. D'abord expliquer en quoi le fait de prolonger l'enquête m'a permis de reconsidérer leur position sociale et de mieux comprendre leur trajectoire sociale et syndicale, et de prendre la mesure du fait qu'elles avaient un rapport mobilisé à leurs conditions sociales en dépit de faibles ressources militantes et culturelles. Ensuite, je soulignerai deux aspects qui me semblent centraux pour comprendre la pérennité de leur engagement syndical. Tout d'abord, c'est un engagement qui est central pour revaloriser leurs conditions sociales d'ouvrières. Donc là, on va retrouver des choses très classiques sur le syndicalisme ouvrier. Mais c'est aussi un syndicalisme qui s'accompagne d'une sociabilité forte entre syndicalistes sur le lieu de travail, qui est essentiel pour ces femmes dans le fait de conforter et même d'accroître leur sentiment de respectabilité en tant que mère de famille, mais aussi en tant que femme active, ayant des droits liés au travail. Alors tout d'abord, revenir sur ce terrain après plusieurs années, revenir sur ce terrain après plusieurs années, ça m'a conduite à revoir à la baisse à la fois leur position et leurs ressources sociales. Donc je ne vais pas pouvoir détailler ici les trajectoires et les positions de ces différentes femmes que j'ai côtoyées, mais donc souligner que je les avais d'abord soulignées, situé plus haut, à mon avis, qu'on ne peut les positionner, que j'avais aussi estimé qu'elles étaient dans des trajectoires d'ascension. Alors, peut-être qu'il y a 8 ans avant, on pouvait imaginer qu'elles allaient avoir une ascension. En tout cas, 8 ans après, elles n'en ont pas eu. Et ça conduit vraiment à les situer pleinement au sein des classes populaires, évidemment pas les plus précaires. Donc, je souligne que ce sont des fonctionnaires. Elles ont longtemps été contractuelles, mais elles ont toutes été titularisées. Donc, cet hôpital, c'est maintenant assez exceptionnel, mais en tout cas, conserve ses fonctions au sein du personnel de la fonction publique hospitalière. Mais bien qu'étant fonctionnaires, elles ont tout un ensemble de caractéristiques qui les ancrent vraiment dans les classes populaires. Donc pourquoi est-ce que j'ai pris la mesure de ça? Tout d'abord, ça a été lié à la relation d'enquête avec elles. Donc après discussion entre elles, elles ont accepté que je passe du temps dans le local syndical, c'est-à-dire que j'assiste à tout un ensemble de formes d'entre-soi sur lesquelles je reviendrai par la suite, aussi que je discute avec les différentes personnes présentes. Dans un tout premier temps de l'enquête, je leur avais annoncé d'emblée que je souhaitais aussi, si elles en étaient d'accord, aller visiter leur quartier et qu'elles me reçoivent à leur domicile. Et dans un premier temps, elles avaient toutes dit « oui, bien sûr, ça va être sympa ». Et en fait, au moment de le faire, toutes ont refusé, d'abord arguant de tout un ensemble de contretemps, et puis elles ont laissé cette demande tomber dans l'oubli, parce que je pense qu'elles étaient très gênées de me montrer leur quartier d'habitation, leur domicile, et tout un ensemble de relations familiales que j'ai appris à mieux connaître à travers leurs discussions. Donc ça m'a quand même fait prendre conscience d'une volonté de se protéger de mon regard qui était beaucoup moins fort dans la première phase de l'enquête et qui était pour moi très très révélatrice. Et d'autre part, j'ai appris beaucoup plus de choses sur leur parcours qui m'ont permis de mieux les situer. Tout d'abord, le fait qu'elles avaient pas de diplôme ou des diplômes courts qui correspondaient pas du tout à leurs souhaits de formation initiaux. Donc pour celles qui ont des diplômes, ce sont des BEP dans la couture au départ, et pour certaines des compléments de formation souvent non diplômants dans le nettoyage du linge. Elles sont toutes d'origine populaire, hein, donc elles ont toutes des parents ouvriers agricoles, ouvriers d'industrie, employés ou inactifs pour une partie des mères. Leurs conjoints sont tous ouvriers ou employés, un certain nombre sont célibataires avec des enfants. Elles ont des ressources financières qui, sans être les plus faibles, évidemment, au sein des classes populaires, sont limitées. Il n'y a pratiquement pas de progression de salaire dans ces emplois. Et donc, en région parisienne, elles ont des ressources qui sont comptées. Hein, donc, elles ont un rapport à leur budget qui est très contraint. Elles ont toutes obtenu des logements en HLM, souvent après des trajectoires résidentielles compliquées, des passages par du logement insalubre pour la plupart d'entre elles. Et elles vivent dans des cités de banlieue nord qui sont pour la plupart d'entre elles des cités assez difficiles. En ce qui concerne leur trajectoire et leurs ressources militantes, donc j'avais noté que certaines d'entre elles étaient des filles de syndiqués, voire de syndicalistes. En l'occurrence, toutes me disent qu'elles n'ont aucune idée de ce que leur père, puisqu'il s'agissait de leur père, faisait dans les syndicats, qu'elles n'en ont jamais parlé avec eux, à l'exception d'une d'entre elles, qu'elles pensent qu'ils avaient juste leur carte, mais qu'en fait, elles ne savaient même pas très bien combien de temps, ni pourquoi. Et donc, en fait, c'est des familles où il n'y avait pas de discussion sur ces questions-là. Donc, il y en a une seule qui évoque les piquets de grève auxquels participait son père, mais les autres sont incapables de dire quoi que ce soit là-dessus. Et donc, ça permet aussi de relativiser des analyses trop rapides qu'on fait parfois sur la transmission d'un héritage militant. La chose, par contre, qui me paraît importante dans leur héritage familial, c'est un attachement à faire valoir les droits liés au statut, à leur statut d'emploi et à faire valoir ces droits en général dans le rapport aux institutions. Et ça, pour le coup, plusieurs d'entre elles dans leur famille ont des membres, des petits fonctionnaires ou des agents d'entreprise publique. Et donc, elles ont un rapport assez revendicatif à l'école, aux services de logement. Donc, elles ont toutes harcelé, étaient très tenaces pour obtenir des logements sociaux. Elles demandent les aides sociales auxquelles elles peuvent avoir droit, etc., etc. J'y reviendrai un petit peu à la fin. Donc, ce qui me semblait central, c'est que ces rapports mobilisés à leurs conditions sociales, ils ne sont pas tellement militants, mais ils tiennent à ce rapport au statut et à leurs droits. Et ce qui m'est apparu en reconsidérant ainsi leur pratique syndicale, c'est que elles étaient en elles-mêmes, la sociabilité qui accompagne ces pratiques et l'entre-soi qui accompagne ces pratiques est une ressource très importante pour elles pour revaloriser leurs conditions qui, par ailleurs, peuvent être assez fragilisées. Donc, je vais développer deux points là-dessus. Le premier point, c'est que c'est un engagement syndical très ancré dans l'atelier et qui est aussi assez limité, mais qui sert à valoriser leur identité d'ouvrière. Donc, je vais passer peut-être un peu plus vite sur ce point. Donc, en fait, ce qui m'a frappé en regardant sur un peu plus long terme ce qu'elles faisaient dans ce syndicat, de quoi étaient faites les réunions de syndiqués, les revendications, les formes d'intervention, c'est qu'on retrouve énormément de choses très classiquement étudiées dans des ateliers de plus grande industrie. Hein. Donc là, elle-même, elle parle du fait qu'elle travaille à l'usine. Donc on discutait de ça avec Fabien, je ne sais pas à quel point on peut dire que c'est une usine, mais en tout cas, elles se définissent comme ouvrières. Elles ont un vocabulaire très ouvriériste sur leur situation de travail. Et l'essentiel de leurs revendications concerne les conditions de travail et les relations avec l'encadrement immédiat, donc les chefs d'atelier. Essentiellement, leur mode principal d'intervention dans l'atelier, c'est des sortes de coups de force quand une machine marche mal ou quand un chef d'atelier s'est mal adressé à une ouvrière. Arrêter le travail, débouler dans le bureau de la direction pour obtenir soit des excuses, soit une réparation de la machine. C'est vraiment le registre principal d'intervention. Et ensuite, participer aux réunions qui sont essentiellement centrées sur les conditions de travail. Je ne développe pas là-dessus, mais pour ce que j'ai pu observer dans les formations ou dans les discussions entre elles, on peut vraiment dire qu'à l'échelle de la PHP, donc des hôpitaux de Paris, où le syndicat CGT est une machine énorme, elles sont en position totalement dominée, là aussi très peu visible. Donc, elles ont beaucoup moins de ressources que d'autres syndicalistes. Elles disent assez ouvertement qu'elles se sentent souvent méprisées par les autres syndicalistes, qu'elles ne comprennent rien à tout un ensemble de réunions, qu'elles ne lisent pas les documents qu'elles reçoivent. Donc, c'est vraiment une forme de syndicalisme autolimité. mais en même temps extrêmement important pour elle au quotidien sur le lieu de travail. Et un autre point que je voudrais souligner, c'est que ces ouvrières, même si je ne l'ai pas détaillé, mais souvent elles se sont retrouvées à la blanchisserie par défaut, hein, suite à des périodes de chômage, de précarité, etc., elles n'aspirent pas du tout à accéder au travail relationnel dans le monde hospitalier. Hein, quand elles aspirent à passer des concours ou à avoir une promotion, qu'elles tentent mais auxquelles elles échouent, c'est pour soit aller vers des fonctions plus techniques, soit aller vers le travail administratif, mais toutes ont un discours assez négatif sur le fait de travailler en salle, hein, c'est-à-dire avec des patients dans les hôpitaux, ou même avec le fait de passer en lingerie. Donc les lingeries, c'est les services qui distribuent le linge propre dans les hôpitaux, et pour elles, c'est le summum de l'asservissement de travailler en lingerie, parce que les médecins notamment sont extrêmement désagréables à leurs yeux, et elles, pour rien au monde, elles ne quitteraient l'usine pour aller en lingerie. Donc elles sont très différentes, par exemple, des enquêtées de Anne-Marie Arbour, et elles ressemblent, enfin, donc les femmes de ménage passées aides-soignantes, elles ressemblent plus aux aides à domicile étudiées par Christelle Avril. Donc elles distinguent plusieurs pôles, et il y a un pôle qui refuse le travail relationnel, et elles ressemblent beaucoup à ces femmes-là. Donc un militantisme qui leur permet de valoriser et de défendre leurs conditions d'ouvrières, mais aussi une sociabilité syndicale qui est extrêmement importante, selon moi, à leur maintien dans l'engagement, parce que c'est une ressource très importante pour elles dans la valorisation de leurs conditions de femmes respectables de milieu populaire, et respectables parce que bonne mère de famille, mais aussi respectables parce que femmes actives. Et il y a vraiment ces deux dimensions dans cette sociabilité militante que je pouvais observer. Pour le coup, c'était mon principal matériau d'observation dans ce local syndical. Donc c'est un local syndical qui est fréquenté à plusieurs reprises dans la journée, parce que du fait de la chaleur notamment, il y a des pauses assez fréquentes, il y a 4 pauses dans la journée. Et donc le local n'est pas du tout fréquenté par tous les syndiqués, mais par contre ce petit noyau vient à toutes les pauses dans le local syndical. Et c'est un moment de discussion assez intense, mais pas seulement de discussion, c'est un moment où se font tout un ensemble de tâches domestiques et où ont lieu tout un ensemble de tâches domestiques, à commencer par le lavage et le pli du linge. Donc c'est une des particularités de ce lieu de travail, ces femmes peuvent laver leur linge personnel dans des machines spécifiques, hein, c'est pas les machines qui lavent le linge des hôpitaux, elles ne voudraient surtout pas y avoir recours pour leur linge, mais elles peuvent venir avec leur linge sale 2 fois par semaine, le laver, et donc les pauses sont consacrées à plier le linge qu'on va récupérer dans les lave-linges, et ce qui occasionne tout un ensemble de discussions, comme on peut l'imaginer, sur la vie quotidienne, les enfants, les conjoints, la gestion du budget, etc. Discussions qui sont l'occasion de se donner des conseils, d'apporter des marques de solidarité, mais aussi beaucoup l'occasion de mettre en scène son savoir-faire de bonne mère de famille, de bonne gestionnaire du budget quotidien, et de se démarquer d'autres ouvrières ou d'autres proches qui, eux et qui, elles, ne seraient pas des bonnes mères de famille ou des bonnes gestionnaires de la vie domestique quotidienne. Donc je ne rentre pas dans les détails là-dessus, mais c'est un élément très très important de cette sociabilité entre syndicalistes, qui a aussi des effets sur leurs pratiques syndicales, par exemple sur la façon dont elles s'adressent aux plus jeunes, en leur donnant tout un ensemble de conseils qui vont bien au-delà de conseils sur la vie au travail, mais aussi sur leur vie domestique. Autre aspect important dans cette sociabilité entre syndicalistes, qui est la valorisation de normes de féminité qui passent par un important travail de l'apparence. Donc là, on retrouve beaucoup de choses observées, par exemple, par Beverly Skeggs, mais qu'on observe aussi dans d'autres enquêtes. Donc les conversations portent beaucoup sur le soin des cheveux, le maquillage, les bijoux, comment faire pour prendre soin de soi, comme on entend parfois, à peu de frais, mais en renouvelant souvent son apparence. Donc il ne s'agit pas de dépenser beaucoup, il n'y a pas un style qui domine sur les autres, mais changer souvent de coiffure, changer souvent de bijoux, se maquiller de manière différente, tout ça c'est est valorisé, ça fait l'objet de sujets de conversation extrêmement fréquents. Et c'est aussi un moyen de se démarquer d'autres ouvrières qu'on juge négligées, mais aussi éventuellement d'autres femmes de classe moyenne ou supérieure qu'on croise à l'atelier, l'assistante sociale, moi j'ai eu droit aussi à des remarques, qui sont jugées ne prenant pas assez soin de leur apparence. Je rentre pas là-dedans dans les détails, il y aurait beaucoup de choses à dire, c'était un aspect très très intéressant des observations. Dernier point, des éléments importants de cette sociabilité, ça sera mon dernier point de l'exposé. Donc c'est un espace de contrôle moral, un espace de rappel de normes de genre et de féminité, mais c'est aussi un espace de réassurance pour ces femmes qui, pour certaines d'entre elles, peuvent subir sur d'autres scènes de leur vie sociale une dévalorisation en tant que mère célibataire, aussi en tant que femme noire, je ne développe pas là-dessus, mais notamment dans le voisinage. Et ces femmes, et là pour le coup, elles sont très différentes des enquêtées de Beverly Skeggs, elles valorisent énormément le fait d'avoir un travail salarié, donc le fait d'être des femmes actives, qui se démarquent donc à la fois des femmes à la maison, à la fois des assistées, mais aussi des femmes entretenues, c'est une figure qui arrive souvent dans les conversations. Et donc elles adhèrent vraiment à la norme du travail féminin salarié, elles y trouvent une forme de fierté et de valorisation. Il y a peu de temps partiel dans cet établissement. L'importance de conserver son emploi est très très souvent rappelée, notamment à des jeunes qui seraient tentés d'interrompre leur activité, etc. Et ça s'accompagne d'une valorisation des droits liés au salariat. Et là, pour le coup, il y a une part de socialisation syndicale dans cette valorisation du droit aux soins, par exemple. En particulier, là, elles ont un accès aux soins plus important qu'ailleurs, mais aussi l'accès au logement social, l'accès à tout un ensemble de ressources qui relèvent de droits sociaux. Et donc, j'avais noté cette phrase de Beverly Skeggs, elle dit... Le sentiment d'avoir des droits ne fait pas partie des ressources culturelles des femmes étudiées. Leur structure de pensée, l'espace du concevable, ne les autorise pas à penser qu'elles ont droit à grand-chose. Eh bien, les femmes que j'ai rencontrées sont exactement à l'inverse de ça. Et le syndicat est pour ça une ressource centrale pour elles. Voilà, je m'arrête là.
Très intéressant. Je voudrais juste, c'est juste une question pratique, je voudrais savoir à peu près quels étaient leurs âges, et d'une part, et d'autre part, si elles étaient depuis longtemps en emploi, et est-ce que la durée du maintien en emploi joue, enfin, est-ce qu'il y a de la variation dans ce poste-là, hein, je pense, là, dans ces postes identiques, pas d'autres promotions.
Donc là, à l'heure actuelle, ces femmes, elles ont entre 40 et 55 ans, enfin 38 et 55 à peu près. Elles ont toujours travaillé ou cherché à travailler depuis leur sortie du lycée, en fait. Elles ont connu des périodes de chômage, mais qu'elles ont mal vécu, qu'elles ont vécu comme contraintes. Donc, pour la plus ancienne d'entre elles, elles travaillent là depuis 25 ans. Pour les plus récemment arrivées, elles travaillent là depuis 15 ans à peu près, elles ont eu toutes sortes de petits boulots auparavant. Deux d'entre elles ont travaillé dans des pressings avant, et d'autres ont travaillé à la poste, dans l'aide à domicile, ont fait des ménages, enfin différentes activités. En fait, peu ont connu de longues périodes d'inactivité ou de longues périodes de chômage.
Moi, j'avais une question. Quel est le lien que ce groupe particulier de syndicalistes a avec les groupes ouvriers de l'hôpital, parce qu'il y en a aussi, ou avec les infirmières? Parce que dans ta présentation, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'elle disait, finalement, le monde du soin, on le tient à distance parce que ce n'est pas valorisé. Et j'ai le souvenir de travaux d'une ethnologue, le nom va me revenir tout de suite, qui avait l'air de dire... Excuse-moi. Qui avait l'air de dire que du côté du pôle ouvrier masculin, il y avait au contraire l'envie de se rapprocher du secteur des soins comme étant, là il y a de la valorisation, alors que nous quand on passe dans les chambres et qu'on change une ampoule, etc., on fait du bruit, on dérange. Donc voilà, c'était plus le passage.
Alors je pense qu'elles ont, enfin je sais pas, si elles pouvaient être infirmières, elles le seraient probablement. Elles savent qu'elles n'ont aucune chance de devenir infirmières. La plupart n'ont pas de diplôme ou elles ont des diplômes très inadaptés. Ce qu'elles pourraient envisager, et encore, elles savent aussi que ce n'est pas très réaliste l'envisager, ça serait d'être aide-soignante. Et aide-soignante, ça, ça ne les attire pas. Elles connaissent des aides-soignantes et elles estiment que c'est un travail plus difficile à la limite que le leur. Et surtout, le travail relationnel ne les attire pas. Et donc, quand elles se projettent dans des formes de promotion, c'est pour certaines dans la promotion technique, elles pourraient passer technicienne. Mais en fait, dans ces ateliers, passer technicienne, ça veut dire passer chef. Et donc, pour les syndicalistes, c'est un repoussoir. Et sinon, elles aspireraient à aller dans les bureaux, mais pas forcément pour avoir un contact avec le public. Et elles passent des concours auxquels elles n'ont pas le temps de se préparer et auxquels elles échouent. Et pour les hommes, là, j'en ai pas parlé, mais les ouvriers, eux, leur voie de promotion rêvée, c'est la maintenance. Et quelques-uns y arrivent. Parce que certains ont des formations qui sont plus adaptées à ces concours de maintenance. Alors, elles ont un discours vraiment très ouvriériste hein, sur l'entre-soi des ateliers et elles critiquent énormément les chefs d'atelier qui sont pratiquement pour la totalité d'entre eux d'anciens ouvriers. Donc, ce sont les hommes ouvriers, en fait, de ces ateliers. Ils restent beaucoup moins que les femmes. Ils passent soit la maintenance, soit ils passent chef. Et donc, elles ont un discours très critique sur ces hommes qui les encadrent et... leur syndicalisme est vraiment construit autour de ça. Donc c'est très compliqué pour elles d'envisager de passer chef. Et en tout cas, c'est inimaginable dans cette blanchisserie-là.
Oui, une dernière petite question. Quel est le rapport entre ce groupe de syndicalistes et le reste des ouvrières? Parce que peut-être que j'ai mal compris, mais il y a quand même... un ensemble d'ouvrières apparemment qui ne sont pas autant ou pas du tout engagées dans ces formes de militantisme tout à fait particulières que tu décrivais.
Oui, oui, bien sûr. Donc j'aurais dû le préciser tout de suite. Donc il y a à peu près il y a une centaine d'ouvrières d'ouvriers sur ce site. La CGT compte à peu près 25 membres pendant la période de mon enquête. Ça n'a pas changé entre les deux périodes, ce qui n'est pas rien hein, quand même pour un établissement comme celui-là, d'autant plus qu'il y a aussi Sud et FO qui sont là. Donc il y a 40-45 ouvriers et ouvrières qui sont syndiqués sur ce site, ce qui est quand même beaucoup. Mais évidemment, le noyau militant est plus réduit dans les différents syndicats. Alors pour répondre complètement à votre question, il faudrait que je puisse les observer sur d'autres scènes que j'ai pu les observer dans les ateliers, dans les salles de pause, etc., ce que j'ai pu faire très, très, très marginalement. Donc la seule situation que j'ai observée de manière plus récurrente, ce sont les réunions entre ces syndicalistes et les simples syndiqués, si on veut dire les choses de manière un peu simpliste comme ça. Ce qui est frappant, c'est qu'à quelques exceptions près, il y a une très grande différence entre elles et les simples adhérents, dans le sens où les autres personnes ont un rapport à la parole très très différent, une maîtrise bien moins grande de la compréhension des formes d'organisation du travail, de la hiérarchie, etc. Et elles sont sans arrêt, c'est une des raisons aussi de la limitation de leur forme d'investissement militant, elles sont sans arrêt rappelées à l'ordre par ces autres ouvriers et ouvrières sur le fait qu'elles s'éloigneraient du terrain, elles ne seraient plus légitimes pour les représenter. Donc en ce sens-là, je disais, c'est un syndicalisme d'atelier comme on a pu l'observer ailleurs.